toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio G, 100.5 FM, il est 19h et vous écoutez l'Europe dans le micro. Aujourd'hui, la Maison de l'Europe Angers Maine-et-Loire Europe Direct va vous faire découvrir l'expérience de Patricia qui a participé au panel citoyen européen sur la mobilité apprenante. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Patricia Tolter, j'ai presque 62 ans, je suis provençale d'origine et j'habite le Maine-et-Loire depuis 17 ans, à Meignet-le-Vicomte particulièrement.
Alors vous avez participé à un panel citoyen à Bruxelles et en visio en mars et avril dernier. Est-ce que vous pourriez nous dire tout d'abord en quoi consistait cet événement ?
Alors les panels de citoyens, je ne connaissais pas. Je l'ai découvert avec l'invitation. Ce sont des panels qui permettent de dialoguer et d'ouvrir des débats démocratiques sur des sujets très importants comme l'alimentation, la communication, l'éducation et, dans notre cas, la mobilité apprenante.
Alors, est-ce que vous pourriez nous dire également pourquoi des panels citoyens ont été mis en place par la Commission européenne ?
Alors, les panels citoyens ont pour but de réunir, rassembler des citoyens de pays, des 27 pays d'États membres, pour leur permettre de discuter ensemble sur des sujets très importants de la vie quotidienne et notamment la mobilité apprenante.
Alors vous étiez combien de participants pour ce panel précis ?
Nous étions 150 en séance plénière, plus les traducteurs, plus les facilitateurs, et nous travaillons aussi en sous-groupe par 10, 12 et dans des salles extraordinaires.
Alors, comment vous êtes-vous retrouvé à participer à ce panel ? Est-ce que vous avez été sollicité ou est-ce que vous vous êtes porté volontaire ?
Ah ben non, vraiment choisi au hasard. On m'a ensuite annoncé que j'étais sur liste d'attente prioritaire et dans la semaine, on m'a confirmé que j'ai participé au panel.
Vous avez dû être très étonné de cet appel.
Oups, surprise, ravie aussi.
Donc, est-ce que vous aviez déjà des connaissances particulières sur la mobilité apprenante ?
Non, pas vraiment. J'en avais quelquefois parlé avec ma sœur, qui est professeure, et qui, elle, me faisait part des difficultés, justement, de mobilité dans les lycées. Mais non, aucune particulièrement.
Alors, est-ce que vous avez appris beaucoup de choses donc pendant cette consultation ?
Ah oui, j'ai beaucoup appris. Apprendre, et surtout, je me suis sentie très concernée. C'est une expérience riche et qui vaut d'être vécue. Ça nous informe surtout de l'inclusivité de la mobilité apprenante, c'est-à-dire que on a besoin d'être tous concernés, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus vieux.
Alors, j'ai l'impression que oui, mais est-ce que cette expérience vous a plu ?
Énormément, énormément. Je suis très emballée. Si on me demandait de participer aujourd'hui à un autre panel, je le ferais.
Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter dans les grandes lignes les recommandations qui ont été faites ?
Alors, il y en a eu une vingtaine. Je pourrais vous les dire dans les grandes lignes, oui, effectivement, parce que certaines se recoupaient. Il y a les recommandations parlaient des moyens de dispenser l'enseignement en Europe, discuter des langues d'apprentissage, parce que certains groupes pensaient qu'il fallait en choisir une commune pour, les moyens de diffusion d'Erasmus+. Utiliser l'intelligence artificielle, la numérisation, mais ça n'est pas accessible toujours à tout le monde. Mais donc, c'était des sujets de débat. Les financements, évidemment, ça c'est très important. L'atténuation des disparités, ça aussi c'est quelque chose de prenant. L'inclusion d'apprenants venant de milieux sociaux différents, donc ça rejoint le précédent. Et à mobilité réduite, parce qu'on a souvent tendance à oublier ces personnes. Quand on sait que 1% des adultes seulement participent à la mobilité apprenante, l'enseignement supérieur concerne 45% et l'enseignement scolaire 27%, mais je pense pas en France. Il y a même eu une recommandation qui proposait d'avantager la mobilité verte sous forme d'aide financière, parvenir à une mobilité respectueuse de l'environnement, bien sûr. Voilà. Il y avait aussi l'accessibilité et l'harmonisation de l'information Erasmus+, comme élément clé, les infrastructures existantes et les milieux ciblés, surtout la population qui en a besoin et qui ne sait pas qu'elle en a besoin. Et ça, c'était mon groupe qui a travaillé dessus. Voilà.
Alors vous étiez sur une thématique précise, c'est ça ?
On en a eu plusieurs. On a eu les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, parce que oui, elles font aussi partie des apprenants, qu'on peut être senior à 55, 60, être en activité et avoir inclure une formation, une mobilité apprenante. Voilà.
Justement, les nombreuses recommandations qui ont été faites, est-ce qu'il y en a certaines que vous avez particulièrement voulu défendre ?
Celle dont je vous ai parlé à la fin des recommandations, c'était l'accessibilité et l'harmonisation de l'info d'Erasmus+. Permettre aux citoyens européens de n'importe quel pays, d'Europe évidemment, d'accéder à Erasmus, à l'information sur Erasmus dans tous les lieux publics disponibles. On a été jusqu'à suggérer la poste, bien que les bureaux de poste disparaissent, Pôle emploi, les mairies, les écoles, une grande diffusion, une large diffusion, une diffusion populaire.
Justement, pendant cette consultation, est-ce que vous vous êtes senti entendu pendant et à l'issue des échanges ?
Oui, on a été entendu, on a été bien écouté, on a eu des intervenants qui ont vraiment répondu à nos questions et pertinemment. Voilà. Donc oui, on a le sentiment d'avoir été entendu. Peut-être que certains ne vous répondraient pas ça, mais c'est comme ça que je le perçois.
Et donc, maintenant que les recommandations ont été faites, quelle est la suite du processus ? Alors, je me permets de préciser que l'émission est enregistrée en différé, donc le processus est peut-être déjà bien avancé.
Nous avons été informés que nos recommandations seraient soumises cet automne à délibération et qu'ensuite les résultats nous parviendraient, enfin, tout au moins parviendraient, en fin de printemps prochain. Voilà.
Alors, est-ce que vous aviez donc déjà participé à des événements de ce genre ?
Jamais.
Donc, ça devait être une grande première. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté ?
Ah ben, énormément d'enrichissement. Moi, je vis à la campagne maintenant. Je suis pas loin de la retraite. Je travaille plus. C'est vrai que de rencontrer ces jeunes, ces personnes de tous ces pays, c'était waouh. Et surtout, je suis convaincue que les échanges d'apprenants en Europe ont beaucoup d'avenir.
Alors justement, donc vous étiez avec des citoyens qui ne parlaient pas la même langue. Est-ce que les échanges se faisaient en anglais ou chacun parlait sa langue et tout était traduit ?
Chacun parlait sa langue. Ceux qui avaient... alors moi, je parle un petit peu anglais, mais j'osais pas. En fait, voilà, l'anglais, mon anglais scolaire, il était un petit peu loin. Mon anglais du travail, il est pas très intéressant. Et du coup, ben, je parlais français, mais je me suis aperçue que portugais, allemand parlaient français. Il y en a qui s'exprimaient en deux langues, voire en trois langues. Alors, j'ai rencontré une luxembourgeoise qui était capable de parler en quatre langues et de s'exprimer, de changer d'une langue à l'autre sans problème. C'était impressionnant.
Ça vous a peut-être motivé à vous remettre dans votre anglais et peut-être
pourquoi
apprendre d'autres langues.
Oui, pourquoi pas.
Et comment sont passés les échanges ? Est-ce qu'il y avait beaucoup de débats ou c'était quand même assez consensuel vu la thématique ?
Non, il y a eu beaucoup de débats et parfois des désaccords. Alors, les débats, c'était surtout en groupe. Les désaccords, c'était en fait des échanges, hein, des dialogues. On ne peut pas être toujours d'accord et on a besoin justement de se rencontrer pour parler. Mais on avait une facilitatrice qui s'appelait Ophélie, qui est angevine aussi d'ailleurs. Je me rappelle plus son nom de famille, mais il finit par EAU, donc c'est sûr que c'est ça. Et elle nous aidait vraiment à conserver la ligne directrice et constructive de nos débats, sans nous obliger bien sûr, mais elle nous remettait dans le droit chemin. Ça a parfois été difficile. On avait notamment un jeune grec qui s'appelait Giannis, qui était assez virulent.
Bon, ça devait être intéressant aussi.
Très intéressant,
voir comment on peut arriver à une conclusion vu le nombre d'opinions et puis et le temps qui était assez réduit finalement. Vous avez eu combien de temps sur ces consultations ?
Ah, on fonctionnait en panel, en groupe pendant 2-3 heures des fois. Donc avec une pause, parfois la pause a été très réduite parce qu'on n'arrivait pas au bout de notre échange, de nos échanges. Donc oui, c'était...
Très studieux.
Très studieux, oui.
Alors pour revenir à la mobilité apprenante, qu'est-ce que vous avez appris de plus intéressant sur ce sujet et puis plus globalement lors de ce panel citoyen ?
Alors, ça c'était la mère constatation. Parce que je me suis aperçue en fait qu'il y avait énormément de disparités en Europe. Bien sûr, on le sait en globalité, en général, on en parle assez, on l'entend. Mais là, je l'ai touché du doigt et je me suis aperçue que dans tous nos pays d'Europe, on ne s'exprime pas, on n'énonce pas les problèmes de la même façon, on ne se déplace pas de la même façon. Et c'était l'occasion de permettre à chacun en s'exprimant de les énoncer, et nous, en face, de les comprendre, ou tout au moins de tenter de les comprendre. Nous n'avons pas tous les mêmes préoccupations ni les mêmes besoins, suivant que nous venons de Grèce, Portugal, Allemagne, Belgique, Malte, Lituanie. Voilà, c'est impressionnant.
Alors donc, vous en avez parlé un petit peu précédemment, mais avec cette expérience dans un panel citoyen européen, est-ce que vous vous sentez plus européenne qu'avant ?
J'ai toujours été européenne. Je crois que j'ai lu la première charte de l'Europe en 1981, j'avais 20 ans. C'était un bon petit dossier, c'était une ébauche. Et je me sens pas plus parce que je pense que je l'étais déjà.
Et donc, est-ce que cette expérience a fait évoluer votre avis sur l'Union européenne ?
Oui et non. En fait, nous sommes 450 millions de citoyens européens. C'est important, hein. On s'en rend pas compte tant qu'on ne dit pas le nombre. Et les événements récents doivent nous faire prendre conscience de l'importance de la démocratie. Et en Europe, la démocratie, elle doit primer. Et donc voter pour exprimer et permettre que les projets se réalisent. Et en participant à ce panel, j'espère que j'ai ajouté mon petit grain de sable, pas dans le rouage, mais pour le faire avancer.
Alors oui, en effet, les élections européennes se dérouleront donc l'an prochain en 2024, du 6 au 9 juin. Vous qui donc avez apporté votre contribution à l'avenir de l'Union européenne, est-ce que vous auriez un message à faire passer par rapport à cette grande échéance qui arrive bientôt ?
Tout simple, tout court. Il ne faut pas hésiter à dire et à montrer son attachement à l'Europe.
Très bien. J'avais aussi une autre question. Est-ce que vous avez déjà pu faire des mobilités apprenantes ou plus globalement voyager dans votre...
Alors, je n'ai jamais fait de mobilité apprenante. J'ai terminé mes études après le baccalauréat. J'ai travaillé par hasard dans l'hôtellerie et j'ai continué ma vie professionnelle. J'ai fait de la formation professionnelle dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. J'ai voyagé avec mes parents, ensuite j'ai voyagé avec mon mari. On a vécu en Afrique, aux Antilles, c'est tout.
C'est très bien.
C'est pas mal déjà.
Donc quand vous avez été appelé pour participer à ce panel, est-ce que vous savez pourquoi vous avez été choisi et est-ce que vous avez hésité à y participer ?
Alors non, j'ai pas hésité du tout. Je rebondis sur vos derniers mots. Non, et je ne sais pas du tout pourquoi j'ai été choisie, tout comme quand on vous appelle pour XXXY, vous ne savez pas pourquoi on vous appelle. Enfin si, on vous dit que c'est pour telle ou telle raison. Mais là, j'ai tout de suite été interpellée par la voix sympathique du monsieur et qui m'a tout de suite expliqué. Il n'a pas fait de ronde jambe. Il m'a dit tout de suite, je vous appelle pour une raison très importante. Voilà. Donc, j'ai tout de suite été concernée et j'ai sauté sur l'occasion.
Et aussi, donc, vous avez fait ces panels citoyens à la fois à Bruxelles et en visio. Combien de temps ça a duré tout ce travail ?
Alors, lorsque nous nous déplacions sur Bruxelles, nous arrivions en tout début d'après-midi, le vendredi, et nous quittions Bruxelles à 15 heures le dimanche. Et là, c'était intensif. Intensif. D'accord. C'est vrai, le mot, il est juste, je pense. Tout était bien programmé, les bus qui nous prenaient à la sortie des séances plénières, quand nous montions, descendions les escaliers, les heures de pause, les heures de repas. À côté de ça, ils nous ont offert de beaux repas, sympathiques. On a mangé beaucoup de hamburgers, mais bon. mais de très beaux repas, et voilà. Non, c'était très bien. C'était très bien organisé, c'était intensif, mais ça valait le coup.
Un grand merci Patricia pour avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une très bonne continuation et on reste à l'affût de la mise en pratique des recommandations de votre panel donc sur la mobilité apprenante. L'Europe dans le micro, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission est disponible en podcast sur le site de Radio G.